Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose parole aux auditeurs. La semaine dernière, l'ONG Amnesty International a publié son rapport 2013 sur la situation sécuritaire en RDC. Ce rapport indique que les groupes armés comme les forces gouvernementales ont menacé, harcelé, arrêté arbitrairement des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. L'ONG International note que ces actes s'accentuent de plus en plus en période des conflits armés et ont lieu non seulement dans les zones concernées par les affrontements, mais aussi dans les zones où règne la stabilité. Selon vous, que faut-il faire pour promouvoir le travail des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes en période des conflits? Nous en parlons avec le professeur Tshiba Nkalala, professeur du droit international humanitaire à l'Université de Kinshasa. Jir Lungembo Titi Poutoua sur la réalisation de cette émission mise en onde par Jean-Noël Mokondo. Pierrot et la Meiji vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Bien avant d'accueillir notre invité dans ce studio, nous allons commencer avec vous. Les auditeurs, vous êtes en ligne comme Jean-Pierre Kita Isiro. Le rapport de Amnesty International indique que les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, ont été victimes des menaces, harcèlement, des fois aussi arrêtés arbitrairement, comme ces actes posés par les groupes armés, tout comme les forces gouvernementales. Et la problématique avec nous dans cette émission, c'est qu'il faut faire pour promouvoir le travail des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes en période des conflits. Nous en parlons avec vous. Vos propositions et pistes de solutions sont les bienvenues. 081 890 6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Jean-Pierre, vous êtes à Issirou en province orientale. Bonjour.
Bonjour et bonjour à l'invité et tous les auditeurs qui suivent Parole aux auditeurs.
Oui, Jean-Pierre, qu'est-ce qui doit être fait pendant la période des conflits pour promouvoir le travail des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme?
Ce que nous pensons, c'est que les pays doivent promouvoir d'abord les droits de l'homme en général et que la démocratie aussi soit prise en charge par la population. Donc, que tout le monde puisse avoir les droits de l'homme. Et après, les militaires, en deuxième lieu, puisque ce sont les militaires qui sont en train de combattre et qui sont en train qui tiennent des armes pour combattre pendant que nous avons des guerres. Alors, si ces militaires ne sont pas fortement sensibilisés, ils ne sont pas fortement pris en charge sur le plan des droits de l'homme, ils ne peuvent rien faire pour améliorer la situation des droits de l'homme et de la population et surtout des opérateurs, des médias et des activistes des droits de l'homme. C'est pour cela, nous proposons ceci pour que nous puissions essayer d'améliorer les codes de notre pays. C'est que on doit arrêter de mixer dans l'armée tous les militaires que nous avions eu tout juste après la rébellion. Vous avez vu que nous avions eu beaucoup de militaires qui sont sortis des groupes armés et qui sont entrés dans notre armée, et ces militaires n'ont pas eu le temps d'être bien formés. Ils n'ont pas eu le temps d'avoir cette formation-là qui leur permet de respecter les journalistes, de respecter les activistes des droits de l'homme et de respecter même la population. Donc c'est là vraiment nous entendions ça, vu les réactions de nos militaires quand ils viennent de la population. Vous en avez appris quand le Goma a été pris par les 1-23, qu'il y a même des militaires congolais qui ont commis de tels actes. Donc le niveau de morale de nos militaires et de nos policiers doit être encore plus renforcé, et cela pourra permettre que nous puissions améliorer leur comportement et diminuer ces harcèlements pendant les guerres.
Oui, Jean-Pierre, mais quand on parle de ces violations, c'est pas seulement, vous avez parlé des militaires loyalistes, si on peut dire ainsi, parce que l'Amnesty International parle aussi des groupes armés, mais dans le cadre des groupes armés, comment on peut amener les groupes armés à pouvoir promouvoir le travail des défenseurs des droits de l'homme et aussi des journalistes pendant les périodes des conflits? Parce que quand il s'agit des troupes loyalistes, on sait comment il y a une structure qui peut être respectée, auprès de laquelle on peut s'adresser, mais quand il s'agit des groupes armés, Jean-Pierre, qu'est-ce qui peut être fait?
Pour les groupes armés, nous devons d'abord non seulement qui ces militaires qui aient des mandats d'arrêt contre leurs responsables, mais aussi tous les autres pays qui sont aux environs de notre pays, que ce soit les Rwanda, que ce soit l'Ouganda, que ce soit les Burundi, tous ces pays-là où on l'habitude de fouiller ces militaires doivent être intégrés dans l'affaire, qu'elles-mêmes acceptent aussi d'arrêter ces personnes. Donc la communauté internationale doit nous aider à faire des pressions sur ces pays-là pour qu'ils nous fournissent, par exemple, Laurent Kunda, qui est aujourd'hui au Rwanda, tout le monde le sait. Ce sont des personnes qu'on a besoin d'aller à la Cour pénale internationale. Et ces personnes-là, il y a aussi plein d'autres militaires qui ont commis des gaffes au Congo et qui sont dans nos pays limitrophes. Donc
merci,
ces pays-là doivent
essayer
de coopérer pour que nous puissions sanctionner ces personnes, pour que ces personnes soient arrêtées, afin qu'ils puissent avoir amélioration. Sinon, nous faisons seulement de notre côté et que de l'autre côté, ces pays-là continuent à soutenir des personnes qui ont commis des forfaits dans notre pays et donc nous n'allons pas réussir. Donc
merci.
Sur les plans internes et sur les plans externes, nous devons avoir des mêmes actions pour permettre à ce que nous puissions réussir à éradiquer ce phénomène.
Merci beaucoup Jean-Pierre, vous êtes à Isiro. Nous saluons le professeur Chibankalala qui est avec nous dans ce studio. Bonjour professeur.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation des Radio Capi.
Merci.
On va écouter encore deux auditeurs revenir à vous pour, si on peut dire, une forme d'introduction avec vous. Le temps qu'on écoute Maître Mashaka qui est à Lubumbashi. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur Pierre, bonjour à notre invité, bonjour à tous les invités de la Radio Capi.
Oui, Maître, c'est Pierrot à la présentation. Vous avez suivi...
Monsieur Pierrot, parce que vos voix se ressemblent.
Voilà, merci, c'est bon. Vous avez suivi Amnesty International qui a dit, hein, chaque fois en RDC par exemple, dans les contextes de conflits armés que nous connaissons, le défenseur des droits de l'homme, les journalistes subissent des actes d'harcèlement, que ce soit des arrestations arbitraires, des menaces. Mais alors, qu'est-ce qui doit être fait pendant des moments comme celui-ci pour promouvoir le travail effectivement des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes quand on est dans un contexte de conflits armés comme nous les connaissons dans notre pays, Maître Mashaka?
Merci beaucoup, Monsieur Pierrot, de m'avoir accordé cette opportunité. Vous savez, Monsieur Pierrot, on doit rabattre l'arbre par ses racines, puisque vous savez, il faut d'abord savoir la source de toutes ces infractions que nos militaires ou bien d'autres personnes, les groupes armés sont en train de commettre vis-à-vis des services des droits de l'homme. Et puis, notre gouvernement, M. Pierrot, ne va pas seulement commencer à attendre jusqu'à seulement que l'Amnesty internationale puisse parler de quelque chose pour prendre maintenant des précautions. Il faut que nous puissions commencer à prendre des précautions bien avant, puisque aujourd'hui, c'est question de remettre la justice à sa place. Puisque la justice est là dans notre pays. Les droits, nous avons un droit. C'est question d'appliquer maintenant les droits comme il faut, Monsieur Pierrot. Mm-hmm. Éviter les histoires des exceptions. Puisque si on punit les gens sévèrement, on sait que non, pour tel acte, il faut telle sanction. Ou bien telle infraction, il faut telle peine, Monsieur Pierrot. Si on met la logique des choses, ou bien la sérieuxité dans l'application de notre justice, ou bien notre droit, M. Pierrot, toutes ces histoires-là ne vont pas encore commencer à revenir. Puisque aujourd'hui, vous savez, nous devons d'abord savoir les sources de ces groupes, des groupes armés, M. Pierrot, qui sont en train de tracasser les activistes des droits de l'homme, les journalistes qui cherchent à établir la vérité dans certaines histoires. C'est question seulement, mais pour moi, M. Pierrot, d'organiser souvent aussi des séminaires pour nos forces armées et pour les groupes là, les groupes armés qui se trouvent de l'autre côté. C'est question d'appliquer nécessairement la justice comme il faut, comme elle se doit, surtout en attaquant leurs parrains, M. Pierrot. Vous allez vous rendre compte que tous ces désordres-là vont mettre fin dans notre pays.
Merci, Maître Mashaka. Vous pensez, en ce qui concerne les militaires, il faudrait des séminaires, des formations. Il y a aussi Jean-Pierre qui a parlé de la sensibilisation sur le respect des droits de l'homme. Mais du côté, parce qu'il s'agit des groupes armés, vous pensez là qu'il faut passer à la sanction, il faut punir, il faut remettre la justice à sa place. Et vous pensez que dans ces conditions, on peut arriver au respect des droits des uns et des autres en période des conflits. Nous allons terminer avec vous, Gérard. Vous êtes à Kananga. Bonjour, Gérard.
Bonjour, M. Pierrot. Bonjour à l'invité aussi, à tous les auditeurs de la radio.
On vous écoute, Gérard. Qu'est-ce qui doit être fait pendant une période comme celle que nous connaissons, la période des conflits, pour promouvoir le travail des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme?
Merci beaucoup, M. Pierrot. Pour remédier à cette situation, il faut d'abord qu'il y ait le respect de la justice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut la volonté des politiques, donc la volonté de nos politiques. Donc toutes ces mauvaises choses qu'ils sont en train de connaître concernant la situation sécuritaire dans notre pays émanent de notre politique ou de la politique de notre gouvernement. Donc il faut d'abord que le gouvernement prenne conscience d'abord du travail que les agents des droits de l'homme sont en train de fournir à la nation et aussi des journalistes aussi. Alors, deuxièmement, notre justice est en train d'être manipulée par la police, les gouvernements ou les gens qui exercent les hautes fonctions dans notre pays. Pourquoi? Parce que vous voyez aujourd'hui, peut-être un capitaine de la police qui a commis de meurtre quelque part, il est arrêté. Demain après demain, vous les voyez en train de circuler, vous les voyez au travail, vous les voyez dans son bureau où il a commencé à préparer donc d'aller commettre ses infractions. Donc c'est donc un manque de la justice dans notre pays. Et nous sommes en train de connaître la situation donc difficile de la sécurité. Donc la deuxième chose, c'est que la situation n'est pas seulement difficile chez les journalistes et les agents des droits de l'homme, non. Même aussi la population, parce que nous, la population, nous sommes en train de connaître aussi des tels cas chaque jour. Je peux vous donner un témoignage. Hier même, ici à Kananga, précisément dans la commune de Lukonga, il y a un bâti qui a connu des problèmes. Il a eu des visiteurs pendant la nuit chez lui, c'était des policiers ou militaires, on ne sait pas, mais les gens à une armée. Où viennent ces armes? Ça vient d'où? Donc nous sommes en train de nous demander, on a pillé même les sous-vêtements des femmes, comprenez les choses, on a pillé même les sous-vêtements des femmes, et nous avons la police sur place, nous avons des agents de l'ANR et autres sur place. Comment on ne peut pas essayer de mettre la main sur ces gens et les présenter devant la justice? Et si on met la main sur ces gens, demain après demain ou une semaine après, vous verrez toujours les mêmes personnes en circulation, donc dans des quartiers, vous les verrez même au marché, dans des choses comme ça. Donc on est en train de se demander si réellement la justice au Congo existe. Donc le problème nécessaire, c'est le problème de la justice. Si on met en action et on respecte les normes judiciaires, nous savons que l'impunité est... l'insécurité dans notre pays pourra prendre.
Merci beaucoup, Gérard. Vous avez rejoint les deux autres auditeurs. Vous pensez que le problème aujourd'hui, c'est d'activer la justice, ce qui fait que quand les gens sont sanctionnés, il y a moyen qu'on arrive au respect des droits, parce que nous avons, bien sûr, aujourd'hui ciblé les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. On peut arriver, bien sûr, au respect de leurs droits. Nous revenons directement à vous, professeur Tuba Nkalala. On a suivi les auditeurs. Avant, bien sûr, que nous puissions commenter les points de vue des auditeurs, revenons d'abord dans les contextes. C'est il y a une semaine qu'Amnesty International a sorti son rapport sur la situation sécuritaire en RDC, mais nous avons épinglé juste le harcèlement, le travail des journalistes et défenseurs des droits de l'homme en période de conflit, parce qu'on se rend compte que pendant cette période ces actes ont tendance à augmenter. Et alors c'est ce qui fait les débats aujourd'hui avec les auditeurs, et nous formulons ensemble les pistes et les solutions comment promouvoir le travail effectivement pendant cette période. Vous êtes bien sûr, je peux le dire, spécialiste de ces domaines du droit international humanitaire, bien sûr, les droits qui touchent aux conflits armés. Alors, avant qu'on aille plus loin, quelle est la particularité du travail des journalistes et défenseurs des droits de l'homme pendant la période de conflit? Parce qu'on sait que c'est un travail de tous les jours. Mais quelle est la particularité quand ce travail se déroule dans une période de conflit?
Oui, merci beaucoup Pierrot d'abord pour l'invitation.
Merci.
Cette émission a un caractère pédagogique, donc il faut essayer un peu de bien planter le décor. Pour les auditeurs de Radio Okapi, il faut d'abord qu'on sache qu'est-ce qu'on entend par conflit armé. Alors, il y a conflit armé dans trois hypothèses. Soit qu'il y a deux États qui se battent. Le Congo, l'armée congolaise contre l'armée ougandaise, burundaise, etc. Donc, c'est un conflit international ou interétatique. Donc là, on a un conflit armé. Il peut y avoir aussi conflit armé lorsque l'armée d'un pays, l'armée gouvernementale, comme FARDC, cette armée est en train de se battre contre un mouvement rebelle, une rébellion. On a commis ça dans notre pays. L'armée nationale qui se battait contre le MLC, contre le RCD ou même contre le M23 pour le moment. Et donc là, il y a aussi conflit armé. Troisième hypothèse, c'est lorsqu'il y a deux groupes armés privés, des milices, sont sur un territoire d'un pays.
Comme les Mai Mai Tel contre les Mai Mai Tel.
Exactement, on a connu dans les Touris par exemple, les Lendu et les Ema.
Les Ema, voilà.
Chaque communauté ayant une milice armée, ils s'affrontaient. Là aussi, il y a conflit armé.
Mm-hmm.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a conflit armé? Quelles sont les règles du droit? Parce que j'ai suivi, les auditeurs insistent beaucoup sur l'application du droit, les droits. Mais quelles sont les règles du droit qui s'appliquent quand il y a conflit armé? J'aimerais dire d'abord que quand il y a conflit armé, c'est la barbarie. C'est la négation de toutes les règles.
Mm-hmm.
Parce que pendant un conflit armé, on tue, on blesse, on détruit. Et d'ailleurs, quand il y a conflit armé, plus vous tuez les gens, plus on va vous donner même une décoration parce que vous avez tué beaucoup de gens. Voyez-vous. Et donc, c'est la négation de toutes les règles. Les juristes ont constaté qu'ils sont incapables d'empêcher l'éclatement d'une guerre. Le Rwanda veut envoyer ses troupes au Congo, il n'y a pas un mur devant le Rwanda, une barrière qui s'appelle droit et qui empêche le Rwanda d'envoyer ses troupes au Congo. Et donc, devant cette impuissance, les juristes ont dit, bon, écoutez, ce que nous allons faire, puisqu'on ne peut pas empêcher la guerre d'éclater, tout ce que nous allons faire, c'est d'organiser la pénétration des règles du droit dans la violence.
Dans la violence.
Dans la guerre. Pour essayer d'humaniser un petit peu la guerre. Oui, c'est la barbarie, mais il faut limiter un peu les dégâts.
Mmh.
Alors, ils ont opéré une pénétration à l'intérieur de la guerre, à l'intérieur de la violence, par deux moyens. Premièrement, il faut poser des règles pour dire qu'on ne peut pas attaquer, et c'est la question que vous posez, qu'on ne peut pas attaquer n'importe qui, n'importe comment, et on ne peut pas attaquer n'importe quoi. Donc, il faut des règles. Si vous violez ces règles-là, vous commettez un crime de guerre. Bon, peut-être qu'on verra.
C'est
le cas. Et donc, pendant la guerre, on peut tout faire. On peut tuer, mais attention, il y a des choses qu'on ne peut pas faire pendant la guerre. On ne peut pas attaquer n'importe qui pendant la guerre. On ne peut pas attaquer n'importe quoi pendant la guerre. Et on ne peut pas mener la guerre avec n'importe quel moyen. Il y a des moyens qui sont interdits. Ça, c'est un ensemble de règles. Deuxième pénétration des règles du droit dans la violence, c'est de dire, mais s'il y a des victimes, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut assister les victimes. Il faut les secourir. Il faut aider les malades, les blessés, les prisonniers de guerre, etc. Donc, il faut les protéger. Ça, c'est le droit de l'assistance. Le CICR, la Croix-Rouge, tout ça s'occupe de ce volet. Peut-être qu'on en parlera au cours de cette émission. Maintenant, vous posez le problème des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Pendant la guerre, parce qu'il faut bien circonscrire...
Effectivement, pendant la guerre.
Pendant la guerre, laquelle se passe? Qu'est-ce qui est prévu? Commençons par les journalistes, c'est le métier qui vous intéresse.
Voilà.
Bien. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les journalistes? Les règles du droit international humanitaire, donc c'est le droit qui s'applique pendant les conflits armés, prévoit, divise, si vous voulez, les journalistes en deux catégories. Il y a les journalistes qu'on appelle les correspondants de guerre. Et donc, ce sont des journalistes auxquels l'armée gouvernementale a donné l'autorisation, le gouvernement a donné l'autorisation d'accompagner les militaires sur le terrain, sur le champ de bataille. Ils font partie de l'armée, mais ce ne sont pas des militaires, ce ne sont pas des combattants. Bon, ils vont pour couvrir la guerre.
Ils sont protégés par les militaires avec lesquels ils sont sur
terrain. Oui, parce qu'ils partent. Ce sont des correspondants de guerre. Ils ont reçu l'autorisation du gouvernement, de l'armée, d'accompagner les militaires de bataille pour couvrir la guerre, dans les informations. Mais ce sont des civils. Bon. Si un tel journaliste est arrêté par la partie adverse, il a le droit d'être traité comme un prisonnier de guerre, qui est un très bon statut. Parce que si vous avez le statut de prisonnier de guerre, vous êtes protégé. On doit vous nourrir, on doit vous habiller, on doit vous loger, vous devez être bien traité. Et après la guerre, on vous rapatrie chez vous. Donc c'est un bon statut qui est prévu par le droit international humanitaire. Ça c'est pour les correspondants de guerre, des journalistes. Deuxième catégorie des journalistes, ce sont les journalistes qui ne sont pas des correspondants de guerre, qui se retrouvent là, sur le champ de bataille, pour couvrir les événements, les activités, etc. Ce sont des civils. Eux, ils ont la protection générale qui est reconnue à tous les civils pendant la guerre.
Pendant la période des guerres, voilà.
Et on peut même leur donner des cartes spéciales pour les identifier, pour leur identité. pour qu'on sache que ça, ce sont des journalistes, ils font tel métier. Mais ils sont assimilés aux civils. Mmh. Ils ont une protection générale, c'est, je ne peux pas me mettre ici à vous donner les articles, les traités, les conventions qui prouvent ça. Nous avons en fait ce qu'on appelle la charte, en quelques mots, des droits internationaux humanitaires, ce sont les quatre conventions de Genève et les deux protocoles additionnels. Oui. Bon, je ne vais pas aller dans les détails pour ne pas dérouter les auditeurs. Oui. Et donc, tout ce que je vous dis là, c'est prévu par des règles précises du droit international humanitaire. Donc, pour les autres journalistes, ils sont protégés comme les civils. Qu'est-ce que cela signifie? En période de conflit armé, eh bien, il y a une distinction fondamentale qui est faite. C'est la distinction entre d'un côté, les combattants, ceux qui font la guerre, et les non-combattants, donc les civils. Et pendant la guerre, on ne peut attaquer que les combattants. Vous ne pouvez tirer que sur les combattants qui sont en armes.
Aux civils, non.
Vous ne pouvez pas tirer sur des civils. Les civils sont protégés. Il y a même la Convention cadre de Genève qui s'occupe de la protection des personnes civiles pendant la guerre. Et donc, les journalistes font partie de cette catégorie des civils qu'on ne peut pas attaquer, sur lesquels on ne peut pas tirer, etc. Et donc, ils doivent être protégés. Si vous tirez sur une population civile qui ne prend pas part au combat et que vous tuez cette population, compris des journalistes, eh bien, vous commettez un crime de guerre et vous êtes poursuivable. Donc, voilà la protection qui est reconnue aux journalistes correspondants de guerre ou non correspondants de guerre en période de conflit armé. Évidemment, il y a les règles du droit international des droits de l'homme, qui s'appliquent aussi, qui sont des garanties normales. Le respect du droit à la vie, à la sécurité, etc. Ça se pose les journalistes. Maintenant, les militants des droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'homme, et ils n'ont pas une catégorie, une protection spéciale prévue par les règles du droit international, à la différence des journalistes. Bon. Mais ils font partie de la population civile. Ils font un travail de terrain, de voir est-ce que la population civile est respectée. Est-ce qu'on respecte le droit à la vie, comme on a dit? Est-ce qu'on tue les gens? Est-ce qu'on massacre les gens? Est-ce qu'on arrache leurs biens, etc. Et donc, ils font ce travail de protection et de défense des droits de l'homme dans la population civile. Et ils n'ont pas le droit d'aller sur le champ de bataille, non. Et ils sont dans la population civile. Ils dénoncent les violations, etc. Et donc, eux, ils doivent être protégés en tant que population civile. Et donc, on ne peut pas les tuer. On ne doit pas les blesser. On ne doit pas diriger les armes contre eux. S'ils sont arrêtés comme population civile, eh bien, ils doivent être respectés. Si un militant des droits de l'homme a commis une infraction pendant la guerre, eh bien, s'il est arrêté, il doit être jugé convenablement devant un tribunal indépendant. Il a le droit d'avoir des avocats qui doivent l'assister, etc. Et donc, ces droits de l'homme, ces droits humains, doivent être respectés en période de conflit armé, comme les droits de toute la population civile. Voilà, je peux me résumer à ce stade, à ce niveau-là.
Voilà, cette fois, c'est très bien expliqué. On va écouter, mais peut-être avant d'écouter les auditeurs qui sont encore sur les antennes, maintenant, le problème, il se pose aussi au niveau de la responsabilité de chacun, que ce soit les journalistes, que ce soit les défenseurs des droits de l'homme, sa responsabilité. Est-ce qu'au niveau du droit international humanitaire, y a-t-il aussi de responsabilité de l'un et l'autre, là où ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire? Parce que des fois, ce problème d'arrêter les journalistes ou les défenseurs des droits d'homme, c'est de savoir, non, nous sommes en temps de guerre, par exemple, ça c'est une information sensible, ça tu ne peux pas dire, non, ils ont exagéré. Voilà un peu des fois là où ça se mélange et que les uns et les autres se plaignent que non, nos droits ont été bafoués. Y a-t-il des responsabilités de l'un et l'autre, un peu aussi, en bref, avant qu'on écoute les auditeurs?
Vous savez, nous sommes en période de conflit armé, pendant la guerre. Eh bien, il y a l'État qui est menacé. L'État doit se défendre. Et donc, il y a des informations qui sont sensibles. Et donc, le journaliste qui est sur le terrain, qui est en train de découvrir certains événements, peut-être la guerre, il doit être prudent. C'est un homme, il doit faire lui-même une certaine autocensure. Il doit savoir que ça, c'est une information. Si je donne, c'est peut-être, il ne va pas jusqu'à dire, voilà, je sais où se trouvent les chars de combat de l'armée, je sais, ils ont autant de militaires, etc. Donc là, vous donnez des informations publiques qui peuvent être captées par la partie adverse pour pouvoir changer ses stratégies. Donc, il y a des informations que le journaliste ne doit pas donner au public, qui ont un caractère militaire très sensible, parce qu'on est sur le champ de bataille, notamment du côté du gouvernement. Du gouvernement, parce qu'il y a un principe de la conservation de l'État dans la guerre. Il y a le problème des nécessités militaires. Donc, il y a des révélations qu'il ne faut pas donner dans la guerre. Le droit d'informer, oui, c'est bon, il faut informer, mais il faut aussi savoir qu'est-ce que vous devez informer. Il y a une certaine prudence dans le travail des journalistes pour éviter de s'exposer aux choses. Et donc, quand vous vous engagez dans ce type de métier et que vous allez sur le champ de bataille pour couvrir les guerres, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut informer au public et quelle prudence il faut adopter pour éviter de mettre votre propre vie en danger, votre propre métier. Parce qu'il y a aussi des nécessités militaires, de secrets militaires, de stratégies militaires. Si vous arrivez à accéder à ce type d'informations, il ne faut pas les divulguer. Mais ça, c'est un problème de prudence. Il faut d'exercer une certaine autocensure, une certaine discipline personnelle, une certaine déontologie, c'est le mot que vous aimez bien, la déontologie journaliste. Donc vous devez être prudent. Les militants des droits de l'homme, eux, ils sont là pour dénoncer ce qui ne va pas.
Y a-t-il des limites dans le fait de dénoncer aussi? Y a-t-il des limites?
Oui, je pense qu'il faut être toujours prudent. Bon, il ne faut pas parfois diffuser des informations qui vont faire répandre la terreur dans la population. Et donc il faut être objectif. Il faut éviter de donner, d'être à la base de certaines rumeurs qui ne sont pas fondées. Donc, il faut faire un travail correctement. S'il faut dénoncer des choses, il faut en avoir les preuves, n'est-ce pas, solides, pour éviter à l'amélioration. Je vous signale que sur le champ de bataille, ce n'est pas n'importe qui doit y aller, notamment pour apporter des secours, etc. Il y a le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, qui a reçu ce mandat de l'humanité, je peux dire ici, pratiquement de tous les pays du monde entier, pour dire que pendant un conflit armé, pendant la guerre, il n'y a que le CICR qui peut aller dans les zones des conflits pour apporter des secours, aider les malades, les civils, etc. D'autres organisations ne sont pas autorisées à aller sur le champ de bataille pour secourir les gens. Alors, les militants des droits de l'homme, eux, ils sont dans la population civile. C'est juste, ils font leur métier de dénoncer s'il y a des arrestations arbitraires, par exemple. Il faut dénoncer cela. C'est ça leur métier. On ne va pas leur empêcher de faire ce travail-là.
Okay.
Mais ils doivent faire un travail de manière objective, efficace, plutôt que de tomber dans l'exhibitionnisme en dénonçant des choses qui n'existent pas. Donc ils doivent avoir le courage. Tout métier a un certain risque. Il faut prendre un certain risque. Mais il faut faire ce travail-là de manière courageuse. Mais ce doit être un bon travail objectif qui n'est pas fait pour nuire aux autres sans preuve. Fondé.
Merci beaucoup, professeur. On vous garde. Alidor est à Béni, Étienne est à Guémena et Aloïs à Kananga. On va vous accorder la parole. 081-890-63-15, notre numéro d'appel pour intervenir en direct.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale. Économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoutes et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Alidor, vous êtes à Béni dans la province du Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot, c'est Alidor Ilunga Tabanza depuis Béni. Bonjour à l'évité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous avez suivi vraiment comment, avec beaucoup de mots plus clairs, le professeur a expliqué vraiment la responsabilité des uns et des autres quand il s'agit des conflits armés. Et dans le cadre de notre débat d'aujourd'hui, des pistes, des solutions qui peuvent amener à ce qu'effectivement les uns et les autres respectent le principe comme cela a été clairement démontré. Qu'est-ce qui doit être fait, Alidor?
Oui, ma proposition et ma préoccupation vraiment en dommage à Nekir. Ce qu'il a parlé à ce qui concerne les journalistes et ce qui concerne les agents des droits de l'homme n'est pas toujours chez les journalistes. Parce que nous sommes aussi la société civile est revenue, le membre qui subissent maintenant. Pour le temps, j'ai salué premièrement sa défense et j'ai salué vraiment ce qu'il nous a dit. À ce qui concerne Béni et Témoa, je crois bien que vous avez entendu parler de la situation critique qui est passée dans la ville de Béni. Comment nous sommes en train d'être enlevés n'importe comment, il y a des personnes qui sont prises en otage, il y a la population qui est prise vraiment ça, ne pas faire des enquêtes, il y a des massacres n'importe où. Il y a même le temps qu'on a signalé que 500 personnes du territoire d'Ouïtia a été enlevé. On ne sait pas où ils sont partis. Bon, l'avant-hier, il y a un homme, le porte-parole du gouverneur, qui a été enlevé. On l'a amené, on ne sait pas où. On a retrouvé
le porte-parole du maire de la ville. Hein?
Nous demandons ceci. Nous demandons que la sécurité ici chez nous, vraiment, la sécurité congolaise, revienne à quoi? Si c'est arrivé que le journaliste devient des... Nous savons que les journalistes sont là pour nous diffuser. Les journalistes sont là pour les informations. À camp de guerre, par exemple, et quand on avait nos rebelles, par exemple, de l'homme 23, nous avons des journalistes qui sont là comme Cage qui est là, qui doivent faire toutefois des informations. Il y a des informations qui doivent être diffusées les informations sur l'armée congolaise et les informations sur les rebelles. Et n'avisons-je pas qu'il puisse y avoir que les informations ne soient pas informées, disons ça, que la population ne puisse pas avoir l'information peut-être sur les morts chez les rebelles, ce qui est bon, de ce qui compte s'est passé peut-être à leur côté. Et maintenant, il y a des conflits qui traversent même le plan des journalistes et il y a entre chez la population civile. Donc vraiment, à mon compte, moi je demanderai à la sécurité congolaise de vouloir encore faire du mieux plus que ce qui est pour le temps, de vouloir encore mettre la sécurité à sa place. Il y a le service de la Nord qui est là, il y a le service de l'IA qui est là, il y a plein de services qui est vraiment entre alentours, qui puissent voir comment ils vont disponibiliser les gens de la sécurité pour garantir la population, parce que les journalistes, la population congolaise, les agents des droits de l'homme, tous sommes des peuples congolais. Et quand on souffre comme ça, vraiment, ça ne nous donne pas de plaisir.
Merci, Alidor. On sait qu'il y a des cas particuliers, ce qui est arrivé à Béni. Hein. Vous avez parlé des enlèvements, vous avez parlé aussi du porte-parole hein, de maire de Béni qui a été enlevé, je crois bien. Vous avez évoqué plusieurs cas. Mais si je peux retenir dans tout ce que vous avez dit, il revient, c'est mon sécurité revient, que ce soit la sécurité qui doit être assurée pour les journalistes ou bien pour les défenseurs des droits de l'homme, mais l'ensemble de la population pendant la période de conflit. C'est ce que je peux retenir hein, de votre point de vue. Merci beaucoup, Alidor. Étienne, vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur. Bonjour, Étienne.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez suivi le professeur qui a expliqué les principes du droit international humanitaire, mais peut-être, comme l'a dit Maître Machaka, il y a le problème des sensibilisations qui se posent hein, de part et d'autre, que ce soit les troupes loyalistes, que ce soit, par exemple, les groupes armés en ce qui concerne ces droits. Peut-être que c'est le problème aussi de l'ignorance. Pour vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que cette catégorie de personnes puisse faire son travail comme il faut pendant la période des conflits armés?
Merci, monsieur le journaliste. J'ai suivi avec intérêt toutes les explications données par les professeurs et que j'ai salué en passant. Monsieur le journaliste, vous savez, en République démocratique du Congo, c'était à la base de toutes ces violations des droits de l'homme, droits des journalistes et des défenseurs des droits de monsieur, d'abord l'impunité. Monsieur le journaliste, vous savez, il est dit que quand la partie de la population en insécurité et quand ils voient quelqu'un en tenue militaire, un policier soit un militaire, ils se sent sécurisés. Ce n'est pas le cas en RDC. Aujourd'hui en RDC, quand un citoyen congolais voit un militaire, il est inquiet, il sait quel sera mon sort vis-à-vis de celui qui a l'arme, ainsi de suite. Or, ce sont des gens qui sont censés protéger cette paisible population. Alors, moi je pense que il y a les responsabilités sont quelque peu partagées. Mais pour que nous puissions arriver à mettre fin à cela, je souhaiterais qu'on puisse d'abord commencer ou revoir, rééduquer les militaires, rééduquer les agents de l'ordre sur le respect des droits de l'homme et le respect des droits humains. Aussi, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes doivent aussi respecter leur déontologie comme venait de dire le professeur. Parce que, d'abord, les médias ou alors la presse est le quatrième pouvoir et la presse est un outil de démocratie par excellence. Mais si ceux qui sont censés manipuler cet outil démocratique ne le font pas correctement, c'est ce qu'on arrive parfois à des incompréhensions et à des théories pareilles. Mais je pense que ce sont des aspects qui est vraiment en République démocratique du Congo où les droits de l'homme n'est pas tellement respecté, mais aussi les défenseurs des droits de l'homme. Il est vrai qu'ils sont censés dénoncer, mais il faut dénoncer pas par plaisir de dénoncer, mais il faut dénoncer objectivement. Parfois, les défenseurs des droits de l'homme parlent pour peut-être nuire à la personnalité d'autrui. C'est ce qui parfois arrive aussi à des conflits et à des tueries. Mais ce qui est vrai, j'insiste, c'est qu'on doit vraiment rééduquer les hommes en uniforme. On doit demander à chacun de respecter sa déontologie. Je pense qu'on n'arriverait pas tellement à tout cela et peut-être qu'on diminuerait le taux de tuerie et de violation des droits de l'homme.
Merci, merci Étienne. Vous pensez qu'il y a d'abord la lutte contre l'impunité, mais il faut aussi sensibiliser les hommes britanniques, les combattants, ceux qui participent aux opérations de guerre. Il faut qu'ils soient aussi enseignés, qu'ils connaissent les règles des droits. Et puis, du côté des journalistes et défenseurs des droits de l'homme, que chacun travaille dans sa responsabilité, dans le respect de sa déontologie. Vous pensez qu'en respectant, en arrivant à cela, on peut réduire tant soit peu le problème de violations qui peuvent toucher les uns et les autres. Aloïs, vous êtes à Kananga, au Kassa occidental. Bonjour Aloïs.
D'abord, merci Monsieur Gère, je vous salue. Je salue également l'expertise de notre invité, le professeur Kibangu.
On vous écoute, oui.
Je vous remercie d'abord pour m'avoir accordé au moins une fois la parole dans les émissions que vous présentez.
Mm-hmm.
Oui, quant à la question du jour, qui relance le débat du jour, je pense que tout est déjà réglé dans le droit international humanitaire, tel que venait de le dire le professeur Kibang. Cependant, la promotion de ces droits doit être un point de départ pour moi. Ça signifie quoi? C'est juste dire ceci. L'enseignement du droit du cours de droit international humanitaire aujourd'hui, tel que nous le constatons, est consacré à l'université. Et cela à quelques facultés ou départements seulement.
Mm-hmm.
Or, quand on lance l'opération de recrutement des unités dans les forces armées, l'opération est généralisée sur toutes les couches de la population sociale. Je crois que aussi, l'effectif dans les rangs de forces armées régulières aux forces armées étrangères ou forces armées étrangères est gonflé par la majorité des gens qui n'ont pas eu la chance parfois de faire l'université. Alors, pour ma part, j'aurais pensé ceci. Si on ramène ce cours jusqu'aux humanités, voire même en sixième primaire, je pense qu'on peut redresser cette situation car les militaires qui seront recrutés après seront déjà dès la base outillés sur certains principes qui stipulent, n'est-ce pas, ces cours, notamment sur la connaissance des cibles pendant les affrontements, les non-cibles, et aussi la qualité d'armes à utiliser. J'espère que cela est une bonne chose. Et aussi, c'est une proposition que je cherchais à faire. Je veux aussi que la connaissance de ces droits soit un élément primordial pour le recrutement des forces armées. Quand bien même il est prévu que le recyclage doit suivre dès que les recrues sont déjà maintenues. Quant aux journalistes, parce que l'un des auditeurs qui m'a précédé l'a dit que la responsabilité est bien partagée, les journalistes doivent savoir aussi couvrir leurs informations. C'est-à-dire quoi? Ils doivent être honnêtes dans la décortication de leurs informations de peur qu'ils ne puissent pas s'en tirer de certains ennuis, M. Gier.
Mmh.
En bref,
oui, terminé,
je pense que si c'est quelques... Oui,
oui, allez-y, terminez, oui.
Mmh. Oui, je pense que si c'est quelques propositions que je viens d'épingler là, si mes sujets sont respectés, on a déjà une solution par rapport à ça. Merci.
Merci beaucoup, Aloïs. Vous avez dit qu'il faudrait peut-être aussi insérer les notions de droit international humanitaire au niveau... De la formation, que ce soit au niveau même secondaire. Vous avez évoqué même sixième primaire et oui, et peut-être de généraliser ces cours pour les autres filières au niveau de l'université, parce que la plupart des gens qui sont sur le champ des batailles, nombreux, n'ont pas été formés, ils ne connaissent pas les notions des droits internationaux humanitaires, quand bien même ils peuvent passer au recyclage. Et du côté des journalistes, vous avez parlé d'évoquer l'ONTT. Si ces deux principes sont respectés, on peut arriver au respect des droits des uns et des autres pendant la période des conflits armés. Merci beaucoup, Aloïs. Maurice, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Hey, bonjour, Gilles.
C'est Pierrot, Maurice.
Oui,
voilà.
Pierrot, bonjour.
Bonjour. Vous avez suivi les uns et les autres l'introduction du professeur. Et comme nous dégageons les pistes et des solutions pour qu'on arrive à la promotion du travail des journalistes et aussi des défenseurs des droits de l'homme pendant la période des conflits armés, qu'est-ce qui doit être fait au guerre au regard de ce qui a été déjà annoncé dans cette émission?
Moi, je dirais que, vous savez, la justice élève la nation, comme la Bible le dit. Notre problème ici, chez nous, c'est cette absence d'une justice impartiale. Alors, nous avons une justice à la place, une justice à multiple vitesse, comme bon nombre de nos auditeurs, plutôt des auditeurs, l'ont pu le dire. Alors, vous savez que ici, chez nous, d'abord, l'impunité est théorisée en mode de gouvernance. Là, les grands problèmes, la grande difficulté. Vous avez compris il y a quelques mois ce qui s'est passé à la prise de Goma avec les militaires qui ont violé une centaine de femmes congolaises, et même exécutant d'autres. Alors, vous avez compris comment les choses se sont déroulées. Il fallait qu'il y ait une pression, jusqu'à même à poser un ultimatum au gouvernement, hein, pour passer quand même à la vitesse. Hein? Donc seul le régime ici est incapable. Donc nous ne pouvons même pas chercher aller chercher des solutions ailleurs. Les problèmes résident au régime qui dirige ce pays. Donc qui a fait de l'impunité comme mode de gouvernement ou de gouvernance. C'est là les grands problèmes. Hein? Vous savez ce qui s'est passé par exemple là-bas de Nouville. Il y a des gens, les membres de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme qui organisent une marche pacifique. Hein, garantie même, la marche ou la manifestation sont garanties par la Constitution. Ils projettent une marche et par seulement cette projection, par cette initiative, ils ont été arrêtés. Et vous avez suivi comment ces gens ont été condamnés. Hein, ils ont été condamnés même jusqu'à 20 ans de prison. Il fallait qu'il y ait une pression internationale, les médias internationaux comme RFI exerçaient une pression pour qu'on puisse réduire cette peine jusqu'à un an, une année. Mais c'est pas normal ce qui se passe dans ce pays. Nous ne savons pas, ces gens-là s'appuient sur quel support juridique, hein, en prenant de telles décisions, en condamnant des gens comme ça gratuitement. Hein. C'est ça le problème. Et un cas aussi qui illustre l'absence vraiment de la justice, c'est l'assassinat de Floribert Chebeya. Vous savez, Floribert Chebeya est mort, et assassiné, et jusqu'à aujourd'hui, le procès ne fait que piétiner. Hein? On ne sait pas ce qui se passe autour de ce procès. Pourtant, tout a été démontré, hein, que c'est le général Numbi qui a assassiné. Mais on
non,
ne sait mais, pas.
Non, 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 Maurice. Maurice,
on ne sait pas ce monsieur, pourquoi.
Maurice, parce s'il vous plaît. Que,
oui.
Non, mais on ne peut pas quand même se jeter dans la passion. C'est vrai ce que vous dites, mais on ne peut pas, parce que dans le procès, il n'a pas été démontré comme ça dans le procès. Si nous pouvons rester dans le cadre du procès, parce qu'on ne va pas faire les débats sur ces procès, ça n'a pas été démontré comme ça. Il y a eu des condamnations en première instance, mais la partie civile est allée en appel. On a demandé de recommencer les procès, on peut dire ainsi, mais on ne va pas dire tout de suite dans cette émission qu'il a été démontré au niveau de la justice qu'il a été assassiné par le général. Ça risque d'être aussi une accusation plus grave pour vous.
Non, je
pour
parle,
vous, mais pour
ça
nous.
A été démontré par ses avocats, par les collectifs.
Voilà.
Toutes les indices ont été apportés, les preuves que c'est lui qui serait le présumé.
Voilà, on parle des présumés.
Alors,
s'il vous plaît, Maurice. S'il vous plaît, Maurice.
Oui.
Dans le principe de droit, la partie, la défense démontre. L'autre aussi, la partie accusée démontre et il revient. Aux uns au tribunal s'il faudrait utiliser ainsi la décision finale. Après, on peut vous accuser, on peut apporter les preuves d'une partie et une autre partie peut aussi prouver que ces preuves on peut facilement les balayer, c'est comme ça que ça se déroule, mais au niveau des présomptions on ne peut pas tirer des conclusions pour dire que voilà, ça s'est fait comme ça, parce que le procès d'ailleurs il est en train de continuer, vous l'avez dit, que le procès continue, on ne sait pas combien de temps le procès peut durer, mais c'est comme ça. Mais si je peux revenir dans le cadre de notre débat d'aujourd'hui, vous avez dit qu'il faut aujourd'hui lutter contre l'impunité. Si on lutte contre l'impunité, on peut résoudre les problèmes de violation des droits, que ce soit les droits des journalistes ou les droits des défenseurs des droits pendant la période des conflits. Je crois que c'est ça ce qu'on peut retenir pour qu'on puisse aller de l'avant avec notre débat et surtout ne pas nous perdre dans beaucoup de choses à la fois. Merci beaucoup Maurice, vous êtes ici à Kinshasa. Théophile et Ismaël, vous gardez la ligne, on va revenir à vous le temps que le professeur puisse réagir. Professeur, vous avez introduit, les auditeurs ont réagi. J'étire trois propositions, la lutte contre l'impunité, la sensibilisation, mais aussi les notions que vous avez évoquées ici sur les droits internationaux humanitaires qui doivent être insérées, que ce soit dans la formation des militaires, que ce soit même au niveau des universités, pour que ceux qui sont recrutés puissent vraiment intérioriser cela. Que si on le pratique, et du côté bien sûr des journalistes, des Français des droits de l'homme, on met ensemble cela sur terrain, on peut résoudre les problèmes. Maintenant, au niveau des responsabilités, qui doit amener ces principes aux uns et aux autres? Et vous allez réagir aussi à ce que les auditeurs ont dit. Hein.
Oui, merci Pierrot. Bon, je vous ai dit au début de cette émission que la guerre, c'est la négation des règles de droit. Mm-hmm. C'est la barbarie. Donc, il y a là-bas. Et donc il faut distinguer deux situations. Situation de guerre, de conflit armé, en pleine guerre, et la situation où on est en temps de paix.
Mm-hmm.
Oui. Pendant la guerre, tous les États, il y a 194 États qui ont ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux, ont l'obligation de respecter et de faire respecter les règles du droit international.
Mm-hmm. De respecter et de faire respecter.
Respecter et faire respecter les règles du droit international humanitaire. D'abord, ils ont l'obligation d'abord de ratifier, bon, ça c'est fait, mais ils ont aussi l'obligation de diffusion.
Mm-hmm.
Bien plus. Il faut diffuser les règles du droit international humanitaire.
Et c'est là où nous rejoignons les auditeurs qui ont parlé de la sensibilisation.
Exactement.
Et de la formation.
Donc l'État, comme l'État congolais, mm-hmm. a le devoir, a l'obligation de faire connaître les règles du droit international humanitaire, pas seulement aux étudiants. Bon, moi j'enseigne à l'université, cette branche, le droit international humanitaire, mais qu'on appelait, anciennement on l'appelait le droit de la guerre, mais aujourd'hui on l'appelle beaucoup plus le droit des conflits armés ou le droit international humanitaire. J'enseigne cette discipline. Mais ça ne suffit pas de donner cet enseignement seulement aux étudiants, qui sont des futurs magistrats, parfois même des magistrats militaires, ou futurs avocats, juges, etc. Mais il y a aussi, il faut aussi organiser des sessions de formation, des séminaires, des formations, destinées aux principaux concernés. Ce sont des militaires, ceux qui se battent sur le champ de bataille. Parce que c'est en ce moment-là qu'il faut appliquer ces règles. Et donc, il faut former les officiers supérieurs, les généraux, les colonels, les majors, pas ceux qui commandent les troupes sur le terrain. Ils doivent d'abord eux-mêmes être formés. Formés en quoi? Pour dire, pendant la guerre, qui il faut attaquer et qui il ne faut pas attaquer. En faisant la distinction entre cible civile et cible militaire. C'est fondamental. C'est une règle fondamentale. Qu'est-ce qu'on ne peut pas attaquer? Est-ce qu'on peut aller attaquer le barrage d'Inga? Est-ce qu'on peut aller attaquer une centrale nucléaire, ou un hôpital, ou un monument historique, etc. Et donc, il faut qu'ils le sachent, les chefs qui commandent, pour donner des instructions. Mm-hmm. Voilà, vous allez au combat, ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, etc. Et il ne faut pas utiliser n'importe quelle arme. Nous avons une grande actualité aujourd'hui en Syrie, où on parle des armes
biologiques, on a utilisé des gaz, par exemple,
des gaz, etc. Oui, oui. Donc, il y a des armes qu'on ne peut pas utiliser pendant la guerre. Et donc, nos militaires, les chefs militaires, les officiers supérieurs, ceux qui vont sur le champ de bataille, ils doivent savoir ce qu'il faut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Si vous capturez les adversaires, les ennemis, comment il faut les traiter, etc. Donc, cet ensemble de règles, il faut donner un minimum pour que les gens sachent quoi. Commandement. Parce que si vous ne le faites pas, ou vous commettez les crimes de guerre, ou vous êtes dans les crimes contre l'humanité, ou je ne sais pas, ça devient compliqué en ce moment-là. Donc, je suis d'accord avec des auditeurs qui demandent qu'on puisse former surtout les militaires, et les magistrats, parce qu'il y a des magistrats militaires, il y a la justice militaire. Et donc, souvent, quand on va sur le champ de bataille, il y a des magistrats militaires qui les accompagnent pour juger certaines infractions qui sont commises par les militaires pendant la guerre. Et donc, il faut former nos armées, n'est-ce pas, notre armée nationale, en matière de droit international humanitaire. Ça, c'est indispensable. Deuxièmement, on pose le problème de l'impunité, la justice, etc. Il faut distinguer deux choses. Pendant la guerre, il n'y a pas d'autorité de l'État. L'État ne peut rien faire, parce que son autorité est contestée. Pour prendre le cas de notre pays, nous sommes dans une situation de guerre, ce qu'on appelle de guerre asymétrique. L'ennemi est même invisible. On ne sait pas où se trouve tel groupe Tcheka ou Mai Mai ou troupe de Janvier ou etc. Et donc c'est une guerre asymétrique. Les mouvements rebelles, les factions armées, ne connaissent pas le droit international humanitaire. Ici, nous parlons seulement du côté du gouvernement parce qu'il y a cette obligation-là. Alors, cette bande de voyous qui sont dans les villages, qui tuent, qui violent, qui arrêtent, etc., ces gens-là ne connaissent pas le droit international humanitaire, sauf si ils font la déclaration de belligérance. Ils disent, oui, nous nous battons contre le gouvernement congolais, nous allons respecter les règles du droit international humanitaire. Et donc, mais ces gens, qui va leur donner cette formation-là? Vous voyez, c'est des villageois ramassés n'importe où. Donc, il y a un problème. Ce qu'il faut faire, aujourd'hui, c'est un petit peu à partir de l'accord. Nous l'avons dit ici chez nous depuis des années et des années, mais on l'a dit aussi à l'accord.
Mais pour cela, on risque déjà de conclure.
Oui.
On peut garder ça, juste le temps de libérer les auditeurs, on revient pour conclure, parce que là, je vois déjà, c'est la conclusion.
Oui, oui, donc pour dire ce qu'il faut faire.
Voilà. Alors maintenant, là, on peut écouter rapidement, il y a Théophile qui est à Kananga, Ismaël à Goma et Valentin à Kananga. Dommage qu'on n'a pas beaucoup de minutes pour vous. Hein. Peut-être 30 secondes à chacun. Hein. Nous pouvons vider cela, revenir au professeur, parce que la conclusion est elle va être vraiment très très intéressante. Théophile, vous êtes avec nous, bonjour. Théophile, bonjour.
Bonjour.
Oui, oui, Théophile, en 30 secondes rapidement, votre point de vue.
Oui, c'est vraiment désolé, parce qu'avec les temps qui étaient plus maison, j'avais beaucoup de questions pour, au moins 4 questions comme ça pour poser les invités, puis j'ai salué d'abord l'invité. Bon, moi, ma première préoccupation, je suis d'accord avec mon prédécesseur, avec ce qui vient de passer. Bon, moi, première question, c'est quoi d'abord? Est-ce que le professeur qui est, toi vraiment, dès qu'il dit que non, les droits internationaux, est-ce que lui aussi, il sait aussi les droits nationaux? Parce que ce que moi, je vivais ici à Goma, désolé. Parce que si je sais bien que le professeur compte seulement les droits internationaux, je veux bien que vous aussi puissiez enseigner aussi les droits nationaux, parce que ce qui, nous les Congolais, on vit aujourd'hui ici, à Goma, et puis, disons, dans l'est de notre pays, ce n'est pas vis-à-vis des droits internationaux. Parce que les gens aujourd'hui qui font la guerre au Congo, les gens qui font la guerre au Congo aujourd'hui, Pierrot, je vous dis, moi j'étais ici, à un moment des tombes fait l'année passée, l'entrée de M23 ici à Goma. Pierrot, tout ce que c'est ici, tout ce que moi j'ai vu vraiment, c'était droit international, hors des mêmes des journalistes internationaux. Parce que les journalistes qui s'étaient mis à faire les reportages là n'étaient même pas les journalistes nationaux, c'était les journalistes internationaux. Ils étaient dans les...
Oui, si on comprend, Ismaël.
Annoncer tout.
Voilà, Ismaël, si on vous comprend. Si on vous comprend, Ismaël, votre souci, bon, en fait, bien sûr, ça entre dans le domaine des cours des droits, comme le professeur le disait. Votre souci, c'est que vous, quand on parle du droit transhumanitaire, vous avez envie, c'est comme si vous avez l'impression que le professeur parle plus de l'extérieur que de l'intérieur, mais malheureusement, c'est pas ça ce qu'il a pu expliquer, parce que vous voulez peut-être, vous avez dit qu'il parle du droit national, en ce qui vous touche à Goma, effectivement, c'est ce que nous sommes en train de parler, mais peut-être dans la conclusion, vous allez comprendre ce que le professeur a dit, hein, mais malheureusement, on ne parvient pas à saisir vraiment votre idée. On va terminer avec vous, Valentin, vous êtes à Kananga, bonjour.
Je voudrais vous donner un peu de temps, je voudrais m'exprimer suffisamment.
Mais on n'a pas vraiment beaucoup de temps, désolé vraiment.
Je voudrais m'adresser à mes compatriotes, c'est pour la plupart qui pensent qu'au Congo, il n'y a pas la justice. Et quand j'ai suivi les procès avec beaucoup d'attention, je les félicite beaucoup. Il a fait la part des choses. Il faut qu'on comprenne que quand un pays est en conflit et de guerre, il y a beaucoup des choses qui interviennent, beaucoup de paramètres. Quand on est au front, un journaliste doit savoir qu'il fait un travail et qui nécessite beaucoup de prudence et il doit avoir beaucoup d'abnégation. Puis quand on arrête quelqu'un, un journaliste, faisons l'exemple, l'armée congolaise arrête un journaliste qui interprète. Mais qui fait la sécurité? Puisque, par exemple, un journaliste qui est en train de dire, voilà, l'armée congolaise a reculé d'autant de kilomètres, tout ça, des faussetés. Si l'armée arrête un tel journaliste, vous comprenez que c'est un journaliste qui est en train de démobiliser les forces armées au front.
Il faut dire que les journalistes doivent comprendre qu'il faut être dans l'honnêteté possible dans tout ce qu'ils font, mm-hmm. comme métier dans le fond. Par exemple,
Valentin,
l'autre côté, mm-hmm. si les accrochés, par exemple, les Maïmaïs, les Congolais, ils n'ont même pas des notions de droits humanitaires, comme on vient de le dire par les...
Merci beaucoup, Valentin. Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin, mais je retiens les mots clés pour vous, c'est l'honnêteté. Hein, quand on est sur le champ des batailles, dans un conflit, les journalistes doivent faire travail avec honnêteté. On revient à vous, professeur Tshibankalala. Dommage qu'on ne pourra plus avoir beaucoup d'auditeurs, mais du moins, l'essentiel a été dit. Nous avons compris l'orientation qui a été donnée. Vous étiez en train de conclure, hein, en une minute et demie pour terminer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à harmoniser la situation pendant ces moments-là?
Oui, la période de conflit armé, cher ami Pierrot, il y a beaucoup de souffrance. Mmh. Je comprends notre ami de Goma qui a vécu la guerre à Goma avec moi. Il y a beaucoup de souffrance et nous sommes d'accord avec tout ceci. Bon, je pense que pour que nous puissions nous en sortir, il faut peut-être revenir aux accords récents à Addis Abeba et ce qui vient de se passer. Mmh. Nous devons faire en sorte que nous puissions, et c'est dit dans les accords, que nous puissions restructurer nos forces armées, nos forces de sécurité, et essayer de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire. On va éviter ces drames, ces misères, ces difficultés et ces souffrances. Donc il faut la refondation de l'État congolais sur le plan de l'armée, des forces de sécurité, sur le plan de l'administration et surtout sur le plan de la justice. On a condamné la justice tout à l'heure. Mais pendant la guerre, la justice est difficile à être appliquée. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, compte tenu de la faiblesse de nos moyens, on a même fait appel à la CPI, Cour pénale internationale, pour pouvoir examiner, mener des enquêtes dans notre pays pour attraper des criminels. Donc il y a ce travail qui doit être fait. Mm-hmm. Il y a le travail d'éducation de militaires, mais il y a aussi, pour ne pas oublier ce qu'il fait, pour les journalistes et les militants des droits de l'homme, ce sont des gens qui sont très utiles pour notre société. Ce sont les journalistes qui prennent un risque énorme d'aller sur le champ de bataille pour nous donner des informations. Mais ils doivent faire ce travail dans le respect de leur déontologie, mm-hmm. pour éviter de s'exposer à des dangers. Les militants des droits de l'homme, même chose, il faut être honnête, objectif, ils vont éviter certains dangers qu'ils pourraient subir dans le cadre de leur métier.
Merci beaucoup, professeur Tshibankalala, d'avoir accepté notre invitation. On pourra peut-être en parler encore, il y aura beaucoup de temps pour ça. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous allez retrouver cette émission à 20h en rediffusion. Au revoir.